France Musique. France Musique, les grands entretiens. Judith Chen.
Je m'appelle Bruno Procopio, je suis né à Juiz de Fora, dans le Minas Gerais, en 1976. Je suis claveciniste et chef d'orchestre.
Bonjour Bruno Procopio.
Bonjour.
Et merci beaucoup de nous recevoir chez vous, ici, en région parisienne. Alors, vous êtes musicien pléthorique, on entendait claveciniste, chef d'orchestre, mais aussi directeur de festival, bâtisseur de labels et de divers ensembles musicaux, pédagogue, bref. 5 jours en votre compagnie ne seront pas de trop pour explorer votre galaxie. On a le sentiment que vous êtes peut-être quelqu'un d'impatient, quelqu'un d'un peu... hyperactive, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais je me demandais à l'aune de ce caractère qu'on semble pressentir par toutes les fonctions que vous occupez, comment vous aviez vécu ces derniers mois, voire années maintenant, où la pandémie nous demande de freiner à la fois nos mouvements, de freiner aussi nos projets. Vous avez vécu comment cette période-là et où d'ailleurs ?
Est-ce Bonjour, que c'était Judith, ici ? C'était tout à fait ici. J'ai vécu très bien cette période. La plupart des collègues étaient très anxieux du fait de ne pas pouvoir faire des concerts, mais je trouvais que c'est plutôt une bénédiction pour pouvoir faire ce que je n'avais pas le temps de faire. Ça veut dire faire des projets des disques, monter des choses que je n'avais plus le temps et songer à de nouveaux projets. Quand on est dans le tourbillon de la vie quotidienne, c'est très compliqué de faire ce qu'il faut faire et en plus concevoir de nouveaux projets. Donc pour moi, c'était une vraie chance. Je m'excuse pour ceux qui ont vécu mal, mais en tout cas pour moi, c'était vraiment une très belle période.
Quelles étaient les partitions, par exemple, que vous aviez à cœur de remettre sur votre clavecin ? Ou peut-être que ce que je vois en face de moi aussi, ce n'est pas tout à fait un clavecin, c'est un piano forte ?
C'est un piano forte, oui.
Et sur le piano forte, qu'est-ce que vous travaillez ?
Je ne travaille pas, c'est ma femme qui est pianofortiste.
Vous ne faites pas de piano forte ?
Non, je ne fais pas de piano forte. J'écoute du piano forte. Nous en avons deux à la maison et je suis très content. Donc, j'ai eu l'opportunité de remettre au jour les variations Goldberg que je travaillais depuis une vingtaine d'années et que je n'avais jamais le temps de bien la faire. Donc, du coup, dès le début de la pandémie, je me dis « Ah, c'est peut-être l'opportunité de justement de la travailler pour l'enregistrer », chose que j'ai fait à Royaumont au mois de juin. Donc, c'était vraiment une belle opportunité pour ça.
Oui, ça, c'est une sacrée bible.
Plus qu'une Bible, c'est en la faisant qu'on se rend compte de la difficulté et de l'Everest qui représente ces trouvages. Peut-être en la faisant, je me pose la question s'il faut vraiment la faire ou la jouer en concert tellement c'est difficile et tellement peut-être il faut faire, comme d'ailleurs mon professeur Pierre Antaille, des centaines et des centaines de fois en concert pour l'apprivoiser.
Par cœur ?
Non, pas par cœur. Je sais jouer par cœur, mais je ne souhaite pas jouer par cœur parce que ça serait peut-être un stress supplémentaire. Il faut essayer d'enlever les stress pour arriver au cœur du bien faire. Donc non, pour moi, ce n'est pas un sujet, du coup, jouer par cœur ou pas. C'est difficile tout simplement parce que c'est une œuvre qui est atypique. Il y a ce qu'on appelle les mains croisées et des pièces très virtuoses sur des registres séparés. Ça veut dire que clavecin, quand on veut jouer fort des pièces forte, on accouple. Ça veut dire qu'on pousse le clavier du dessus et le clavier d'en bas, il y a deux registres, deux cordes, et par conséquent, il est plus lourd. Donc, dans les pièces dites à deux claviers, donc les mains naviguent sur une corde. Donc, le clavier est très léger. Donc, nous n'avons pas l'habitude non plus de jouer des pièces virtuoses sur des claviers très légers. C'est aussi un exercice unique. Donc, les pianistes ne ressentent pas ça parce qu'ils jouent sur un clavier, mais nous, au clavecin, oui. Jouer du clavecin, c'est un risque. C'est un risque qui parfois est maîtrisé, mais je trouve que c'est un instrument très périlleux. Et c'est peut-être là la beauté de cet instrument. Enfin, beauté pour celui qui écoute, quelque chose de fragile, et qu'en même temps, il y a une certaine personnalité par son timbre spécifique, par son rythme, que c'est un instrument finalement rythmique. Néanmoins, c'est très périlleux. Donc, jouer du couperin, c'est, je dirais que c'est infiniment plus facile, en quelque sorte, parce que ce sont des pièces ancrées dans le son de l'instrument, dans ce qu'il y a de plus emblématique du clavecin, par ses ornements, par le remplissage du son. Chez Bach, il a une vision tellement, je dirais, déconnectée de l'instrument qu'il aborde, que finalement, on est devant un monument, et peu importe si on jouait à l'accordéon ou au clavecin, je dirais que ça n'a pas passé par la tête de Bach qu'il faisait ça pour le clavecin, contrairement à la musique de couperin, qui est emblématique de l'instrument.
Bruno Procopio, on l'a entendu, vous n'êtes pas né ici, vous êtes né de l'autre côté de l'Atlantique,
oui.
Au Brésil. Si jamais vous vous replongez dans ce monde-là, ce sont, j'imagine, des sons, des odeurs, des couleurs. Qu'est-ce qui vous vient en premier à l'esprit ?
Il vient beaucoup de choses et tout me manque. Et tout me manque, 27 ans, je suis arrivé en 94 en France. Tout me manque. Les odeurs, non, j'ai un très mauvais odorat. Les couleurs des choses me manquent. Il y a quelque chose par la couleur qui m'identifie le chez moi. Et pour moi, c'est très clair. C'est une couleur de bleu très foncé et une couleur de vert très foncé. À chaque fois que j'arrive au Brésil, je regarde les cimes des arbres et cette canopée me fait dire « tu es au Brésil ». C'est pas une question de température ni de son, c'est une question de couleur. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui me manque véritablement. Je suis très heureux de vivre en France. Mais effectivement, je ressens au quotidien ce besoin.
Et ça, c'est pas du tout pareil dans tout le Brésil.
C'est pas du tout pareil.
J'imagine qu'il y a plein de verts et plein de bleus différents. Vous êtes né où alors?
Je suis né dans l'état de Minas Gerais, qui est ce grand état où se trouvent les montagnes, qui s'appellent les mines générales, parce que c'était là qu'a pratiquement commencé la richesse du Brésil, dans ces villes historiques telles Ouro Preto, Tiradentes, Mariana. Ce sont des villes minières à partir de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, mais néanmoins, à partir de ce moment-là, devient les villes les plus importantes du pays. Et ma ville, c'est une ville frontière de l'état de Rio, donc je suis à une heure de Rio, donc je suis à cheval entre cet état, quand il dit état, c'est une région plus grande que la France, hein, tout de même, et Rio de Janeiro. Donc ma ville de référence est Rio.
Est-ce que vous pouvez essayer de nous brosser un petit peu comme ça le paysage, plus que simplement ses couleurs?
Je suis né au Minas Gerais, mais mon père était médecin et il était appelé partout dans le pays. Et mon enfance, j'ai passé dans une région très reculée qui s'appelle le Mato Grosso. C'est une région qui fait frontière avec le Paraguay et le Uruguay, dans la région ce qu'on appelle le Pantanal. C'est une région semi-inondée, dont la moitié de l'année, pratiquement toute la région est inondée. Enfin, une région qui fait à peu près 2/3 de la France. Et donc, où se trouve le fameux parc du Xingu, où se trouvent aujourd'hui pratiquement toutes les réserves indigènes du pays. Donc, je suis né dans cette région de ferme, de campagne inondée, où il faut faire très attention quand on met le pied dans l'eau, parce qu'il y a du crocodile et des piranhas. Donc ça, c'était mon enfance. Donc c'était pas du tout une enfance de ville, ni une enfance de conservatoire, et pas du tout une enfance de culture. C'était plutôt une enfance de jungle.
Cette enfance de jungle, c'était l'occasion de partager avec vos parents des expéditions. Comment vous la viviez, cette nature ?
Le monde civilisé côtoie le monde sauvage, et pourtant ce sont deux univers qui ne se touchent pas. J'ai toujours eu beaucoup d'attrait, beaucoup de fascination vers le monde sauvage. Le Brésil, l'unique pays au monde, où, peut-être encore à Bornéo, des personnes qui n'ont pas vu l'homme blanc. Et ces gens-là sont à quelques kilomètres d'où j'étais. Du coup, il y avait toujours ce mythe qui appartient, je vais dire, à la plupart des Brésiliens, de se dire, on est quoi ? On est un peu européen, mais on est un peu mulâtre, mais aussi on est indien. Il y a une forte tendance de se dire qu'on est plutôt européen et africain, par l'esclavage, mais en fait, on oublie cette veine indienne. Depuis mon enfance, c'est quelque chose qui m'a beaucoup passionné. Donc, du coup, j'ai eu de minces opportunités d'aller dans des réserves indigènes parce que la personne qui nous menait à l'école était lui-même un indien bororo. Et la personne qui faisait le nettoyage de la maison, c'était aussi notre indienne Kaipur. Et donc, du coup, j'ai eu plusieurs fois l'opportunité, chose qui ne se fait pas facilement, de côtoyer des tribus qui ne sont pas dans l'état sauvage, qui sont dans des réserves indigènes, mais néanmoins, elles sont comme ils étaient pratiquement il y a 500 ans.
Et vos parents, ils étaient aussi, par rapport à cette culture-là, quand vous dites on est tous évidemment métissés, leurs origines à tous les deux, votre père et votre mère?
Pas du tout. Mes parents sont donc tous d'origine italienne, italiens du début de la fin du 19e siècle. Quelque part à la fin du 19e siècle, ceux qui ont un peu fui d'une part la misère en Italie et d'autres qui ont allé faire fortune parce que c'était des familles aisées. Donc c'était des familles italiennes qui arrivaient au Brésil et qui se mettaient entre elles. Mais quand on me voit, on voit quand même qu'il y a des traits indiennes et il y a un peu de noir quelque part. Donc je pense que dans cette classe, en tout cas pour mes parents, c'est plutôt une aspiration de vie très à l'occidentale qui est vraiment une vie ou africanisante ou indigène, loin de là. C'est plutôt moi qui toujours une curiosité, mais mes parents, pas du tout.
Votre mère travaille ?
Elle est biochimiste, oui.
D'accord, tous les deux quand même
dans la médecine.
Dans la médecine, oui. Et dans la recherche.
Exactement. Et donc l'Europe était toujours la référence. On esquissait des mots en italien. Donc c'était plutôt cette branche-là qui était la branche de référence, en tout cas à aspirer quand on voulait être quelqu'un au Brésil. Évidemment, on ne va pas dire oui, vous savez, il y a peut-être un oncle qui était esclave ou une arrière-grand-mère qui était indigène, qui était prise au lasso. C'est quelque chose qui est là, mais qui ne fait pas partie, on va dire, du blason adoré.
Est-ce que c'est cette histoire de votre arrière-grand-mère ?
Bah, elle était indienne toupi. Et donc c'était à la fin du 19e siècle, c'était une femme qui était indienne et qui ne parlait pas portugais, qui a pris avec le contact de ces migrants italiens. Il y avait encore même à Rio des Indiens. Mais d'ailleurs aujourd'hui quand on va à Manaus, mon père y vivait, on peut trouver des gens qui ne parlent pas portugais en centre-ville.
Et vous, la langue tupi ?
L'anctopie, elle est, non, évidemment, personne ne parle. Il y a un vague dictionnaire qui existe du Padre Anchieta qui a fait des missions dans le sud du Brésil. Mais personne ne parle toupie, mais le Brésil est imprégné de cette langue. Toutes les plantes, tous les fruits sont du toupie. C'est omniprésent.
France Musique, les grands entretiens de Bruno Procopio.
Vous racontiez qu'il y avait donc quelqu'un qui vous emmenait à l'école parce que l'endroit où vous viviez était reculé ?
Non, c'était la capitale de cette ville, mais avait énormément de kidnapping et deux fois on était tenté au kidnapping et donc du coup par conséquent mes parents, mon père, il a décidé de prendre un chauffeur pour m'amener à l'école et il s'avère que je ne sais pas par quel biais c'était un indien bororo. J'étais fasciné par ce gars-là qui était habillé en occidental, mais qui n'en avait vraiment pas l'air du tout. Et donc, petit à petit, il m'a amené à connaître des gens, sa famille, qui était plutôt ce qu'on appelle les populations de bord de rivière. On appelle ça en portugais ribeirinho. C'est des populations indigènes qui vivent à l'occidental, en bord de périphérie de ville.
Et cette dangerosité-là, elle était palpable pour vous, enfant ?
Non, pas du tout. J'habitais, donc c'était une région vraiment reculée où il n'y avait pas de problème. Je ne ressentais pas du tout. Et d'ailleurs, on ne ressent pas. Enfin, on le ressent. Quand on débarque à Rio de Janeiro, c'est une ville qu'aujourd'hui, à peu près à 23% des gens qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Donc c'est la misère visibles, c'est-à-dire les bidonvilles sont là. Et les quartiers les plus beaux sont entrecoupés des bidonvilles les plus dangereuses du pays. Néanmoins, quand on est dans tous ces quartiers qu'on va, que ce soit Ipanema, Copacabana, centre-ville, etc., on ne ressent pas, ou peut-être on ne veut pas ressentir, j'ai un peu du mal à concevoir, le danger et la violence. Néanmoins, c'est omniprésent. Donc ça peut dégénérer à tout moment. Mais il y a une espèce de nonchalance permanente. Je ne saurais pas expliquer.
Donc, y a pas, vous n'avez pas le sentiment de vivre dans l'insécurité?
Non, bien au contraire. Le bonheur total.
Vous avez des frères et sœurs?
Oui, j'ai une sœur plus jeune, oui.
Plus jeune que vous?
Oui, qui est linguiste.
Qui ne fait pas de musique?
Pas du tout. Vous êtes seul? Il n'y a pas du tout de musicien dans la famille. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi j'ai fait de la musique. Ce n'était pas du tout une évidence. C'était ma mère qui achetait un vague piano comme ça et qui nous a mis dans un conservatoire, d'ailleurs au Mato Grosso encore. Et j'étais l'unique à tout de suite comprendre que c'était 10 fois meilleur qu'aller à l'école, c'était apprendre du piano. Mais ce qu'on appelle peut-être un talent naturel, de vouloir faire quelque chose, ce n'est pas un talent naturel de bien faire les choses, mais de s'intéresser à quelque chose. Et donc, j'étais pas du tout censé faire ça. Et le clavecin encore moins, vous voyez, faire de la musique baroque dans ces contextes-là, c'est hors sujet. Peut-être la musique ancienne, elle est venue au départ par une volonté de jouer un certain répertoire au piano, et surtout le timbre du clavecin, j'étais passionné par ça, parce que ça ressemblait beaucoup à la viola caipira, à la viole brésilienne, qui est un instrument à cordes pincées double, il y a un timbre très proche du clavecin. J'ai dit, mais c'est complètement dingue. Faire du Bach dans un instrument qui ressemble à la musique traditionnelle, c'est fantastique. Donc c'est venu de ça, initialement.
Toute votre enfance, jusqu'à 10-11 ans, il n'y a pas d'instrument.
Il n'y a pas d'instrument.
Il n'y a pas de musique.
Non, c'était à l'âge de 14 ans, mon premier cours de clavecin. J'étais un bon élève de piano, et donc c'est quand mes parents sont rentrés du Mato Grosso vers le Minas Gerais, j'avais 12 ans, c'est là que j'ai commencé l'opportunité par des stages de musique, avoir accès à des instruments dits historiques, donc c'est commencé finalement assez tard.
Et quand vous quittez la région du Mato Grosso, c'est un moment dont vous vous souvenez? Un moment peut-être pas évident, si vous aimiez tellement cette région aussi.
J'ai fait une tournée dans le Brésil il y a 5 ans, où j'ai eu l'opportunité de faire un concert justement à Cuiabá, la capitale du Mato Grosso. Vraiment, je dis, mais merci papa d'avoir quitté ce trou. C'est un endroit où on peut pas vivre. Il fait 45 degrés, une humidité incroyable. C'est l'horreur. Enfin, c'est l'horreur. C'est on peut y vivre, mais c'est pas un endroit du tout de rêve. Donc, comme quoi, l'enfance est un moment vraiment de bonheur où on fait vraiment la part des choses.
Et il y avait dans cette enfance-là, vous diriez quelque chose d'un peu solitaire, parce qu'on a l'impression que vous êtes assez dissocié d'une certaine façon de votre famille. Quand vous parlez de votre enfance, c'est vous-même qui partez en expédition, mais c'est pas tellement avec vos parents, c'est pas tellement avec votre sœur. Il y avait quelque chose de cet ordre-là?
Oui et non. Je suis très proche de ma famille, avec ma sœur, avec ma mère, mais c'est vrai qu'on n'a jamais partagé les mêmes goûts des expéditions, de la vision politique des choses, le goût de la musique. Je crois que ma sœur sait vaguement que je suis musicien. C'est un peu dans cet ordre-là. On partage beaucoup de choses, peut-être l'essentiel, mais peut-être une question culturelle. Nous n'ont jamais été au petit soin de ce que j'allais devenir. Je veux dire, la vie professionnelle de gens compte peu pour les gens, en tout cas dans cette culture. D'ailleurs, les noms, j'ai plein d'amis où je ne saurais pas leur dire leur nom de famille. C'est très étrange, vous voyez. Donc c'est une culture qu'on peut être très proche de gens, partager la vie, partager une amitié, ne pas savoir, ou savoir, mais vaguement son nom, et qu'est-ce qu'il fait, je n'en sais rien.
C'est que l'essentiel est ailleurs?
L'essentiel est forcément ailleurs. Le Brésil, c'est un pays fascinant où côtoient l'horreur et le bonheur en même temps. Et c'est une espèce de juxtaposition de tout, une espèce de grand mix. Il fait extrêmement bon vivre, on ne se rend pas compte des choses. Tout est fait pour le plaisir de l'immédiat. L'avenir n'existe pas et le passé encore moins. C'est l'opposé de la conception de la vie ici, en tout cas à l'Occident d'une manière générale. Ils sont à la recherche d'autre chose, d'un certain immédiatisme. Peut-être. On est occidentaux, néanmoins, de vraiment loin. Hein.
rapport à la religion avec votre famille, hein, parce que le Brésil peut-être le plus grand pays catholique au monde.
Oui, c'est ça. Je n'ai pas eu d'éducation religieuse. Moi-même, je n'ai aucune religion. Je suis passionné par les religions tout en ne ressentant aucune foi. Ma famille était de même. Néanmoins, la religion a quelque chose d'omniprésent au Brésil, que ce soit dans les fêtes qui sont vraiment transformées en caractère populaire. Et le syncrétisme a quelque chose de très fort. Je veux dire, on ne peut pas être brésilien sans croire à des tas de divinités qui organisent la vie du quotidien. Néanmoins, évidemment, si on pose la question, on ne croit rien. Mais tout de même, il faut faire attention parce que cette divinité-là, elle peut apporter comme elle peut enlever. Donc attention quand même. Vous voyez, c'est très particulier.
Les esprits sont forts.
Ah, les esprits sont très forts. Et d'ailleurs, la religion que vous avez inventée en France, l'espiritisme, par Alain Kardec, et en France, personne ne sait qui c'est. Il est enterré à Père-Lachaise, et c'est une des religions les plus importantes au Brésil. Très populaire en France, à la fin du 19e, Victor Hugo et tous ces bougeurs de table. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose de très sérieux. Je ne prends pas le spiritisme pour des bougeurs de table, bien au contraire. Mais au Brésil, c'est toute une partie de la population s'est dit de cette religion, vous voyez.
Et ça irrigue beaucoup de choses, parce que si je veux... Il y a ce film-là... Donna Flor.
Oui.
Il y a cette idée là aussi des esprits qui c'est plutôt du côté de Bahia que ça se passe, mais ce côté là très fort,
très fort.
Les esprits qui sont là.
Bah, les esprits sont tout le temps là, oui.
Et même cette écrivaine très étrange, Clarice
Lispector.
Oui.
Oui, et pourtant elle était ukrainienne. Hein. Enfin, c'est brésilienne. Elle parlait avec portugais avec un accent vraiment russe. Cette partie du syncrétisme des choses était très présente dans sa littérature.
Ouais, très étrange
oui,
aussi.
Très étrange, absolument étrange. Et elle était très, très chrétienne en quelque sorte, mais imprégnée de cet imaginaire qui était apporté par les Africains d'une part et qui était tout de suite associé au sein du catholicisme. Mais on oublie encore une fois que les Indiens étaient le maître de ce qu'on ne voyait pas. Les forces de la nature sont très présentes dans l'imaginaire indien et qui étaient tout à fait passées dans la culture brésilienne aujourd'hui, même si on ne la connaît pas forcément.
Et vous, c'est quelque chose qui vous parle intimement ?
De voir les forces de la nature qui nous règnent, qui nous font bouger, vivre et modifier. Ah, ça me parle intimement.
Sur cet extrait d'Itaipu pour chœur mixte et orchestre de Philippe Glass par le chœur de Los Angeles que se referme le premier épisode des Grands Entretiens avec Bruno Procopio. Réalisation Gilles Blanchard, prise de son Arthur Gerbeau, mixage Valérie Lavalard, attachée de production Marie-Christine Ferdinand. Demain, à la même heure, deuxième épisode de ce portrait. Les Grands Entretiens sont disponibles en podcast sur francemusique.fr.
À réécouter sur francemusique.fr.